Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Merdi, j'ai 24 ans, je suis étudiante et ce matin, c'est moi qui vous apporte la parole. Et je priais Dieu pour lui demander effectivement qu'est-ce que je pouvais apporter comme thème, qu'est-ce que je pouvais apporter comme parole, sachant que nous sommes tous concernés par un grand thème qui nous conduit durant toute cette année où nous demandons à Dieu de nous apprendre et de nous réapprendre. Alors, la dernière fois où j'ai pris parole ici, j'ai prêché sur les faits que Dieu devait nous apprendre ou nous réapprendre à l'écouter. Alors, je m'attendais à ce que l'Esprit de Dieu m'inspire quelque chose de similaire. Je me dis, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va dire? Apprends-nous à aimer, apprends-nous à grandir, apprends-nous à quoi au final? Et j'ai été moi-même très surprise par le thème. Mais bien avant de vous dire le pourquoi, du comment, j'aimerais vous poser deux petites questions. La première, en dehors de manger, ce qui est déjà très bien, qu'est-ce que vous faites durant vos soirées entre amis ou en famille? Vous faites quoi d'autre à part manger? Discuter, lecture. Ah, vous lisez dans les soirées? Intéressant. Écouter de la louange. Ouais, on fait ça aussi de temps en temps. La télé, bon. En tout cas, quelque chose que nous faisons beaucoup avec les jeunes quand on s'est réunis en dehors de l'église, on joue. Et loin nous rapporte toujours plein, plein, plein de jeux et on choisit ce qui nous convient et qui met tout le monde d'accord pour passer un bon moment. Et je ne sais pas quel est votre jeu préféré, mais je pense que si Dieu pouvait participer à nos soirées, il préférerait jouer au puzzle. Vous connaissez? Alors, ben, si c'est. Ah, d'accord. Donc, je pense qu'on connaît tous, mais j'aimerais quand même qu'on puisse être d'accord sur ce que c'est réellement. Donc, le puzzle, c'est un jeu consistant tout simplement à reconstruire ou à restituer une image donnée en assemblant des morceaux de pièces déjà prédécoupées. Et généralement, lorsqu'on achète un jeu de puzzle, ça vient avec l'image au fait qui doit être faite avec les pièces. Quelquefois, on a déjà les pièces qui sont assemblées, donc on démonte le jeu pour nous-mêmes reconstituer l'image. Et parfois, les pièces sont déjà en pêle-mêle et on a juste un support sur lequel on va essayer de poser chaque pièce au bon endroit pour pouvoir retrouver l'image de départ. Et durant quelques semaines, l'Esprit de Dieu était en train de m'enseigner que dans notre vie, c'est plus ou moins ce que Dieu est en train de faire. Donc je vais utiliser beaucoup de métaphores, hein. N'imaginez pas Dieu sur son trône de grâce avec une table en train de jouer au puzzle. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Mais ce qui est sûr, rapidement, on peut comprendre que si on peut être un support sur lequel Dieu travaille, très souvent, on n'a pas l'idée de l'image finale que Dieu attend de nous. On est d'accord qu'il nous donne des directives, qu'il nous met des indices, si même je peux le dire ainsi. Mais parfois, l'image finale n'est pas aussi claire au fait que lorsqu'on achète le jeu tout simplement et qu'on a l'image sous nos yeux. Alors, on peut se poser la question de, si Dieu devait faire un jeu de puzzle sur notre vie, quelle est cette image finale à laquelle on est censé tendre? Quelle est cette image finale à laquelle il nous veut? Qu'est-ce qu'il veut que nous formions en définitive? Alors, donc Dieu joue au puzzle. Mince, je suis en arrière. Ok. Bon. Donc, avec ces jeux, on a une image finale, on a un support et plusieurs pièces. Donc, comme je disais tantôt, il y aura beaucoup de métaphores et on comprendra ensemble c'est quoi l'image, c'est quoi le support. C'est déjà nous, j'ai répondu. Et c'est quoi les pièces? Je vous invite à lire avec moi ce verset dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. La Bible nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils des dieux, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc lorsque nous lisons ce verset, on comprend rapidement en fait que l'image finale vers laquelle nous sommes tous appelés à tendre, c'est à ressembler à Christ, mais vraiment dans les détails. Parce que dans ce verset, on voit clairement que nous sommes censés tendre vers cette image jusqu'à la mesure de la stature parfaite, pas approximative, mais parfaite de Christ. Alors si Dieu devait rassembler des pièces sur le support que nous sommes pour produire une image, à la fin, ça doit être l'image de Christ. Amen. Et à la grande différence que nous ne sommes pas un support passif, nous ne sommes pas des supports inactifs. Nous contribuons dans une certaine manière à la construction de cette image qui est Christ. Et parfois, ce n'est pas aussi explicite parce qu'on n'a pas, comme avec le jeu puzzle, on n'a pas l'image tout le temps sous nos yeux. Ou quelquefois, on l'a, mais ce n'est pas aussi clair que cela. Et la deuxième difficulté, si je peux dire ainsi, dans ce jeu, c'est le support. Comme je disais tantôt, le support n'est pas passif. Et puisqu'on n'est pas passif, parfois, même quand la bonne pièce est censée être posée, si le support fait un crochet ou si le support fait une vague, on ne pourra pas très bien la poser, on est tous d'accord. Alors ce que Dieu vise à chaque fois qu'il vient poser une pièce dans notre vie, ce n'est pas d'abord que nous ayons simplement des succès, des réussites dans nos entreprises, ce n'est pas simplement que nous puissions être couronnés des diplômes, des formations ou d'honneurs de la part des hommes. Ce que Dieu cherche à chaque pièce qu'il dépose dans notre vie, c'est que nous ressemblions de plus en plus à Christ. Donc ce que Dieu vise, c'est notre cœur. Et cela, on le trouve dans le psaume chapitre 84, le verset 6, où la Bible nous dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Et souvenez-vous, tantôt je disais qu'on trouve sur cette image, enfin sur le puzzle, une image, un support et plusieurs pièces. Et le support n'est pas neutre. Sur le support, on trouve des traces. Et si je fais un parallèle avec le psaume 84, le verset 6, en nous, nous trouvons aussi des chemins tout tracés. Mais pour que nous arrivions à voir ces chemins tout tracés comme sur un support de puzzle, avec des traces qui sont en fait les marques de la forme de la pièce qui est censée être posée, on est censé, nous, en retour, trouver notre appui en Dieu. Alors le plus grand défi dans ce jeu, ce n'est pas du tout le fait que nous soyons là à jouer ou à tâtonner entre les pièces ou à ne pas savoir quelle est l'image finale que Dieu veut pour nous étant un individu et ce que Dieu veut pour nous étant que communauté. Mais le plus grand challenge dans ce défi, dans ce jeu, c'est la capacité à trouver appui en Dieu. Et très souvent, lorsqu'on joue à un puzzle, on voit qu'on ne trouve pas la bonne pièce, mais on peut retrouver quelque chose qui se rapproche de ce qu'on veut mettre. Alors on peut parfois prendre une pièce, nous-mêmes la découper, espérant que ça va avoir la bonne forme, sauf qu'on est en train de détruire et de gâter tous les jeux. Sauf que c'est très souvent ce que nous faisons. Nous arrondissons les angles. Nous taillons un peu les carrés pour que ça devienne circulaire, parce que ça ne nous correspond pas forcément. Et si je peux trouver un parallèle de ce que seront les pièces, on peut dire que ça peut être tout simplement les différentes épreuves que Dieu met sur notre parcours. Et on ne les accepte pas toutes de la même manière. Ça peut être simplement des temps, des circonstances que Dieu met sur notre chemin. Alors aujourd'hui, Église, si je peux dire que Dieu joue au puzzle, j'aimerais plutôt dire que Dieu apprend-nous ou réapprend-nous à te faire confiance. Parce que dans ce jeu, il n'est pas d'abord question de savoir avec exactitude quelle est l'image finale, mais c'est d'abord de savoir que là où je me situe, je sais que je ne sais pas exactement là où je suis censée aller, mais je décide de te faire confiance. Et lorsqu'on perd cette notion de la dépendance à Dieu, très rapidement, on se retrouve à arrondir les carrés et à tailler les angles. Et au final, on se retrouve avec une image finale qui n'était pas ce que Dieu avait vraiment prévu pour nous. Donc aujourd'hui, si je peux vous poser une question, à quel niveau, à quel degré dépendez-vous réellement de Dieu? Si je peux utiliser ces pupitres comme appui, dès l'instant où je ne sais pas par magie ou par miracle qu'il disparaît, je tombe. Si Dieu est réellement votre appui, dès l'instant où vous l'enlevez dans l'équation de votre vie, tout devient nul. On demande à Dieu de nous apprendre de merveilleuses choses, mais on peut se poser la question, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la motivation qui nous anime derrière? Si Dieu devait rassembler sur une table les différentes pièces, les différents moments de notre vie, les différentes épreuves, les challenges, les gloires et les victoires, quelle serait l'image finale qui en ressortirait? Serait-ce notre propre gloire ou la gloire qui est réellement rendue à Dieu? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse soi-même s'examiner pour revoir nos propres priorités, mais surtout voir que dans chaque épreuve, l'image finale que Dieu vise, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous amoindrir, ce n'est pas pour nous humilier, mais déjà, c'est pour former l'image de Christ en nous. À quel niveau trouvez-vous appui en Dieu? J'aime bien un homme dans la Bible qui était simple et vrai dans Marc 9, 24. Je ne pense pas que je l'ai mis, non. Dans ce verset, on voit Marc 9, le verset 24. C'est un père qui voit son enfant malade, alors il vient demander à Christ la guérison. Et la Bible nous dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Dans d'autres versets, il est écrit, « Je crois, mais je n'ai pas assez de foi. » Église, est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on peut être vrai pour dire à Dieu, « Je sais que tu nous as fait des promesses, j'y crois, mais au stade où j'en suis, pendant que tout est noir, viens au secours de mon incrédulité. Je sais que tu es le Dieu qui guérit, mais cette maladie réside tellement longtemps dans mon corps que je ne sais même plus ce en quoi je dois croire, ce que disent les médecins ou ce que me dit Internet ou ChatGPT, mais je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Quelquefois, on avait une vision claire, surtout étant qu'étudiant, on se dit, voilà, je vais aller à la fac, je vais faire ci, je vais faire ça. Parfois, nos plans ne marchent pas vraiment comme on le pensait initialement et qu'on peut se retrouver à certains moments, on se dit, oula, je ne sais plus où est-ce que je suis, mais viens au secours de mon incrédulité. Et lorsqu'on trouve réellement appui en Dieu, même lorsque la finalité n'est pas claire, il met déjà sa parole à nos pieds comme une lumière. On n'a peut-être pas la perspective de tout le sentier, mais sa parole éclaire déjà nos pieds pour aujourd'hui. Et je me souviens, pour faire un petit témoignage, j'étais en deuxième année primaire, donc vous pouvez un peu calculer à quel âge j'avais. Et donc, j'étais dans une école privée catholique où c'est beaucoup d'excellence, beaucoup de compétition, beaucoup de choses semblables. Alors un jour, le maître de classe nous dit « Ah bah, on a un test à vous faire passer, un test de connaissances dans une semaine, et la personne qui va avoir la meilleure note à ce test-là aura une bourse pour aller étudier où il veut, dans les conditions qu'il va lui-même choisir. » Donc j'avais quoi, 7-8 ans. Je rentre, j'ai dit à mes parents « Moi, je vais en Europe. » Ils me disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai dit « Le maître de classe a dit que celui qui va avoir la meilleure note aura une bourse et moi je veux partir, donc je vais partir. » Mes parents se regardent, ils appellent le maître, ils se disent « Mais c'est quoi cette annonce ?» Donc une semaine après, moi je me prépare, étant donné que j'avais déjà la bonne moyenne dans la classe, je me disais que ça va aller, ça va être sûrement moins. Donc on fait le test, tout se passe bien. Un mois après, pas de réponse, une semaine après, pas de réponse. Deux semaines après, pas de réponse. Je commence à harceler mes parents pour qu'ils aillent voir le maître et demander ma note, si c'est bon ou pas. Toujours pas de réponse. Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse. En soi, ce n'était pas du tout un test qui permettait de voyager ou d'aller faire les études ailleurs. C'était juste un test pour évaluer le niveau de connaissance de l'école. Donc, pour stimuler les élèves, le maître a préféré nous dire qu'on aurait quelque chose de magnifique à la fin. Et je ne sais pas pourquoi dans mon cœur, à cet âge-là, j'étais aussi claire pour aller dire à mes parents, « Moi, je vais en Europe faire mes études. » Et des dizaines d'années d'après, je suis en Europe et je fais mes études. Je me dis, mais quelle était je me pose moi-même la question, mais comment est-ce que dans les cœurs d'un enfant de 7 ans ou de 8 ans, un projet aussi clair peut s'imposer? Tout simplement, en fait, lorsque, au-dedans de nous, Dieu met des chemins tout tracés. Mais on peut avoir les yeux pour les voir uniquement dans la mesure où on commence à trouver appui et refuge en Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Et entre les 7 ans jusqu'au moment où je suis arrivée pour faire mes études en France, Dieu a travaillé quelque chose au-dedans de moi, la dépendance en lui. Et c'est ce que Dieu fait très souvent avec nous. Parfois, moi, je n'avais pas de paroles de connaissance, je n'avais pas de prophéties qui m'ont clairement dit que tu vas voyager à tel moment, à telle année pour aller faire telle chose. Mais au-dedans de moi, quelque chose me rapprochait déjà de ce que Dieu attendait de moi. Et je suis convaincue ce matin que je ne suis pas le seul. En vous se trouve le plan que Dieu veut que vous accomplissiez. Mais parfois, les yeux de nos cœurs sont aveuglés parce qu'on veut accomplir le plan de Dieu sans Dieu. Alors on se retrouve à poser des pièces sans que ce ne soit les bonnes. Ou du moins même quand Dieu nous interpelle pour poser les bonnes au bon endroit, nous, étant que support, on ne se laisse pas faire. Et ça peut rapidement ralentir notre progression. Et cette habitude à avoir tout le temps besoin de contrôler, de vouloir maîtriser ce qu'on ne peut pas maîtriser tout simplement, peut créer beaucoup de craintes, de colère, de frustration. Parfois, on prend Dieu même pour un menteur. Dieu t'a dit, ah, tu vas te marier, mais Dieu n'a pas dit que tu vas te marier avec le frère qui joue au piano et qui chante à la louange et qui a et la belle voix et les bons instruments et tout ce qu'il faut. Si Dieu t'a fait une promesse, même lorsque le chemin n'est pas clair, accroche-toi à ce qu'il dit et fais les pas qu'il te demande de faire déjà pour avancer. Amen. Et cela va éviter beaucoup de frustration parce que lorsque dedans de nous on n'est pas bien, cela impacte nos relations avec les autres, cela impacte même notre relation avec Dieu. Comment voulez-vous prier avec foi un Dieu que vous croyez à moitié ou que vous trouvez être un menteur? Ce n'est pas possible. Et cette dépendance à Dieu, c'est le renoncement à notre propre volonté et c'est cette capacité-là, non pas à devenir passif, mais à savoir qu'il y a quelque chose de bien plus grand que moi, capable de me diriger, de me conduire au bon port. Alors, avec tous les changements qu'on vit en tant que communauté, avec tous les changements qu'on peut vivre en tant qu'enfant de Dieu dans nos propres vies, j'aimerais nous exhorter à vraiment avoir confiance en Dieu. C'est pas facile. J'ai envie de dire que c'est un engagement qu'on renouvelle chaque jour. C'est une décision qu'on prend chaque jour pour dire, aujourd'hui encore, je te fais confiance. Et puisque nous parlons de jeu, je sais pas quel type de joueur vous êtes. Est-ce que vous êtes de ceux qui aiment tout le temps gagner? Ou de ceux, lorsqu'ils perdent, ils sont aigris et méchants envers tout le monde? Mais en tout cas, moi, je suis de ceux qui aiment tout le temps gagner, peu importe le prix. Tricher, manipuler, voler les cartes. Alors, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Si Dieu devait te dire que tu as peut-être 85 ans à vivre et qu'il doit te raconter tout ce que tu vas vivre chaque jour jusqu'à tes 85 ans, je pense que tu n'auras même pas le temps de tout vivre. Parce que tu seras que là à écouter, au fait. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir toutes les données ni tous les détails. Il te demande de marcher tout en lui faisant confiance. Alors, comment gagner? Pour nous qui aimons gagner. Alors, pour gagner, premièrement, accepter de perdre. C'est vrai que ça peut se contredire, mais pour gagner à ces jeux, premièrement, il faut que nous acceptions de perdre. Et Philippiens 3, 7 à 8 nous le dit très bien. La Bible nous dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi, c'est Paul qui parle, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses. » Au début, il dit, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, donc les choses qu'il possédait, il les regarde maintenant comme une perte à cause de Christ. » Non pas que les choses qu'il possédait, et cette fois-ci, toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Puisque nous avons dit que notre image finale pour gagner le jeu du puzzle, c'était de former l'image de Christ, alors pour gagner, il faut commencer par perdre. Et perdre... la perte qu'on est censé vivre tous ici étant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas perdre d'abord des biens matériels, Ce n'est pas perdre d'abord, je ne sais pas, un poste au travail ou perdre je ne sais quoi, mais c'est perdre déjà le nous. Et ça, c'est très dur. Comment puis-je perdre le merdi alors que je suis avec merdi tout le temps et merdi, c'est moi? Parfois, on n'arrive pas à dissocier au fait ce qui est censé mourir en nous pour qu'on gagne Christ. C'est ça, au fait, perdre. Perdre, c'est accepter que autrefois dans le monde, nous étions déjà morts et que la vie que nous vivons aujourd'hui dans la foi est une vie qu'on nous a donnée. Donc, elle n'est même pas la nôtre. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, ta vie, c'est ta vie. Non, tu étais déjà mort par tes choix d'autrefois. Mais aujourd'hui, la vie que tu vis, c'est la vie que Christ t'a donnée. Et Dieu n'a aucun intérêt à te donner une vie et voir cette vie périr. Non. C'est comme si moi, je te donnais ma vie. Donc, je te donne mon compte en banque, je te donne mes diplômes, je te donne mon appart, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Et que par télépathie, je te dirige. Du coup, je n'ai pas trop l'intérêt que tu gâches tout ce que j'ai déjà accompli. C'est un peu ça avec Dieu. Il a tout fait, car Christ sur la croix déclare que tout est accompli, et il attend en retour que, puisque nous avons reçu cette vie, que nous puissions vraiment la vivre sans jamais périr. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à perdre? Oh, moi, je déteste. Mais le seul jour pour lequel je suis prête à perdre, c'est être devant Dieu. Moins de nous, plus de Dieu, mieux c'est. Même dans nos relations fraternelles, dans nos relations familiales, moins il y a de nous, plus il y a de Dieu, mieux c'est pour tous. Et parfois, on peut se retrouver dans un entourage où tout le monde n'est pas forcément chrétien, tout le monde ne connaît pas forcément Dieu. Mais le fait que nous soyons morts en nous-mêmes, ils vivent la présence de Dieu à travers nous. Et ça, c'est l'une des grandes bénédictions que Dieu veut que nous soyons pour le monde. Que nous soyons ces personnes qui sont des ambassadeurs, des vecteurs, des ceux-là qui peuvent propager sa présence, son odeur au milieu de ceux qui ne le connaissent pas. Mais pour que nous arrivions à ce niveau, nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Mourir à nos passions. Quelquefois, il faut mourir à ses projets. J'ai entendu des témoignages d'hommes de Dieu qui avaient d'autres projets pour leur vie, mais lorsque Dieu les a appelés au ministère, c'était un changement total. Parfois, il faut mourir à une habitude. Parfois, il faut mourir à un caractère. J'ai entendu des gens dire, « Ah, mais moi, je me fâche toujours comme ça, je suis toujours comme ça. » Mais si tu es passé réellement par la croix, on est censé le voir. Tu ne peux pas passer par le sacrifice de la croix, par la transformation de la croix et rester la même personne. Quelque chose au-dedans de nous doit mourir. Et c'est exactement là aussi un autre point de difficulté. Si on a parfois du mal à faire confiance à Dieu, c'est qu'il y a une part de notre nous qui n'est pas encore mort, parce qu'un mort n'a pas de volonté. Si on a toujours une volonté à vouloir contrôler, diriger, c'est qu'on n'est pas encore mort. Et j'apprécie un pasteur qui est en train de dire que parfois tu évalues bien ta mort en Christ lorsque tu vis les critiques, les blessures, les déceptions et que tu es toujours là avec le même amour qu'hier, surtout lorsque ça se passe à l'église. Mais très souvent, nous, on réagit parce qu'on est vivant. Un mort, tu peux le piétiner, le blesser, pas réagir parce que c'est... Aujourd'hui, à quel niveau sommes-nous morts à nous-mêmes? Et parfois, c'est juste dans les discussions qu'on reconnaît. Lorsqu'on a du mal à parler de Christ et que tout tourne autour de nous, il est encore très vivant. Et parfois, tout ce besoin de contrôler peut créer beaucoup de vagues et de tempêtes au-dedans de nous. Et Matthieu 6, le verset 27, nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Personne. Or, ce que Dieu nous propose, c'est vraiment de toujours tout reposer sur lui afin de pouvoir bénéficier de ses plans et de ses projets. Et tout ce que Dieu nous propose, ça part d'une base qui est l'amour. Aujourd'hui, l'amour est un mot tellement mal défini dans notre société qu'on ne sait même plus en quoi croire ou qu'est-ce qu'on doit croire quand on parle de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour qui est une personne et lui n'abandonne jamais et ne déçoit jamais. Amen. Alors, deuxième petite règle pour gagner, après la mort, accepter la transformation de l'homme intérieur. Galates chapitre 2, le verset 20, la Bible nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, au moment où on vient dans la foi et qu'on laisse Dieu maintenant le contrôler, qu'on commence à accepter de laisser Dieu le contrôle, ben, on doit accepter aussi cette transformation par la mort, mais aussi le fait d'accepter que, comme je disais tantôt, que ce n'est plus nous qui vivons, mais que tout cela est basé sur l'amour. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Ça peut être une information que vous avez. Est-ce que vous vivez l'amour de Dieu? J'ai été beaucoup interpellée par une phrase que j'ai entendue durant cette semaine pendant qu'on partageait autour de la parole de Dieu avec les frères et sœurs. Il y a une sœur qui a dit, très souvent on vit mal notre foi parce que nous on veut la pratiquer, on veut faire des choses. Mais ce serait plus simple si on pouvait simplement la vivre. Quand on demande à ce que vous méditiez, que nous méditions tous les jours la parole de Dieu, quelquefois c'est dur parce que ça devient comme des devoirs à domicile. Les personnes aiment faire les devoirs. Mais lorsque vous vivez la parole de Dieu, vous avez une paix et une joie à venir puiser dans cette source inébranlable pour grandir et avancer. Et ce que Dieu vise tout au long de notre vie sur terre, c'est vraiment cette transformation de caractère qui va nous ramener à l'image de Christ. Et moi, j'ai été choquée, comme on dit tantôt, qu'on ne sait pas exactement quelle est l'image finale que Dieu attend de nous, mais il nous donne parfois des directives pour savoir quel chemin emprunter. En 2023, pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit, tu dois commencer à travailler. J'ouvre mes yeux. Oui, Seigneur, je ne travaille pas déjà. Je travaille déjà, il me semble. Je suis à l'école, je fais des choses, je m'occupe suffisamment. Et Dieu me dit, non, tu dois travailler, travailler et avoir un salaire. Il me dit, comment on fait ça? Il dit, Dieu, mais moi je suis là pour des études. Pourquoi tu me demandes d'aller trouver un job étudiant? Je ne vois pas trop le rapport. Et cette conviction était forte dans mon cœur. Donc, les premiers mois, bon, j'ai prié sans vraiment rien faire. Parce que je ne voyais pas pourquoi je devais travailler. Je n'avais pas de besoins financiers. Enfin, j'avais ce qu'il me fallait pour vivre, en tout cas. Et Dieu me dit, oui, vas-y. Donc, tellement que ça revenait, je commençais à faire des rêves dessus et tout, et tout, et tout. Bon, bref, j'ai discuté avec Israël qui m'a beaucoup aidé à l'interprétation, à la compréhension de ces rêves-là parce que c'est tellement récurrent que de septembre à décembre, c'était plus ou moins les mêmes rêves. Donc finalement, j'ai dit à Dieu, ok, bon, si tu veux que je travaille, moi aussi j'ai mes conditions. Toujours dans la négociation. Je veux quelque chose qui soit à côté de ma maison, Seigneur. Je veux quelque chose qui ne m'empêche pas d'aller à l'église le dimanche matin. Donc je veux quelque chose aussi qui soit quand même rémunéré à tel montant minimum. Mes conditions étaient claires. Donc je prie, amen. Et une semaine après, je parle avec une collègue à la fac et qui me dit, mais pourquoi tu ne travailles pas? Je dis, bon, bah, je ne sais pas, je ne vois pas trop ce que je peux faire comme travail, je n'ai jamais travaillé, donc bref, je ne sais pas. Elle me dit, viens à notre restaurant, là où elle travaille, elle. Elle m'a dit, il y a un poste qui s'est libéré. Elle me dit, ah bah, il se trouve où ton restaurant? Parce que tu sais, moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de vélo, je ne sais même pas faire du vélo. Donc, ah non, mais c'est à 5 minutes de chez toi à pied, mince. Bon. Elle me dit, ouais, amène ton CV. Je dis, oh là 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 là, Seigneur, là, j'ai vraiment plus trop de choix, quoi. Je dois me bouger. Donc, je fais mon CV. Mais vraiment, comment vous dire que je ne voyais pas pourquoi Dieu voulait que je travaille? J'avais tout ce qu'il me fallait pour vivre. Donc, j'ai fait mon CV. Ce jour-là, j'ai pris tout mon temps. Je suis même allée voir des gens. Bref, j'avais fait mon CV depuis 8 heures, mais je suis allée le déposer à 17 heures. Donc, j'y vais, je dépose et tout. Je rentre chez moi sans plus. Et puis, elle me recontacte dans la soirée. Elle me dit, t'as déposé et tout. Oui, je vais parler au directeur. C'est quelqu'un qui m'écoute. Bref, il va te rappeler. Bref, on me rappelle. On m'embauche. Il me dit, ouais, tu dois commencer à travailler 3 jours dans la semaine. J'ai dit, non, 3 jours, ça va être chaud. Pour moi, c'est 2 jours max. Il dit, mais tu vois, 2 jours, ça va être limite et tout. Bref, en tout cas, il me fait un contrat pour 2 jours. Je travaillais le samedi et le dimanche soir. Et c'était clair. Je me disais, tu vas travailler comme ça pendant 1 an. Ok, je commençais à travailler Et je disais à Dieu, c'était l'année où je devais avoir ma dernière réponse pour mon admission en médecine. J'ai dit, si vraiment j'échoue et que je n'ai pas de place, ce sera ta faute. Parce que tu me demandes de taffer alors que je suis censée travailler déjà pour la fac. Mais vous savez quoi? J'ai eu mon admission, tout en travaillant à côté. Je continue à servir à l'église, tout en travaillant à côté. Et surtout, cela a travaillé mon caractère. Vous voyez, travailler en équipe, c'est pas toujours simple. Donc, je me retrouvais là. Un jour, j'étais invitée à l'ambassade pour remplir des formalités et tout. Oui, l'ambassade, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même un endroit. On n'y va pas tous les jours. Et c'était un samedi, donc je suis allée, j'ai fait les formalités et j'ai pris mon train retour le soir. Et oui, le soir, j'étais encore là devant les sauces tomates. Je me dis, Seigneur, qui va croire que ce matin, j'étais à l'ambassade et ce soir, je suis là en mode incognito. Et Dieu me disait, c'est ce que Christ aussi a vécu. Quand il a abandonné son trône de gloire et de grâce pour se retrouver sur terre, c'était pareil. Et Dieu a vraiment façonné mon caractère pendant ce temps-là, que ce soit dans l'humilité et dans la patience envers les autres, parce que ce n'était pas évident. Et je pense qu'à chaque fois que Dieu nous met quelque part, il vise, ce qu'il vise, c'est notre cœur. Ce qu'il vise, c'est la transformation de notre caractère. Et lorsque cette période est finie, non seulement que j'avais plus d'économies parce que j'ai économisé presque tout mon salaire parce que j'en avais pratiquement pas besoin, j'ai vu un Dieu qui a commencé à m'enseigner sur la gestion des finances. Et je dis, mais comment c'est possible? Vous voyez, alors que si j'étais simplement restée dans ma zone de confort, je n'aurais pas eu toutes ces choses. Et quelquefois, il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Oui, prêcher, ça ne me ressemblait pas non plus. Et je disais clairement aux gens, toutes jeunes, que non, moi, ça, ça ne me ressemble pas. Je préfère faire les choses qui ne... Voilà, tout sauf ça. Mais parfois, ce sont les choses qu'on a l'impression qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas à notre portée. Ce sont des choses auxquelles Dieu nous appelle. Parce qu'au-dedans de nous, il a inscrit ce programme. Je ne sais pas dans quelle direction Dieu vous veut, mais il faut savoir que tout ce que Dieu veut faire pour vous est bon. Et que ses projets sont bien meilleurs que les vôtres. Bien meilleurs. Alors pour finir, je vais vous donner deux versets. Le premier dans Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 4. La Bible nous dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et déjà, si Dieu nous donne la vie, c'est déjà un très, 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 très grand signe de ce qu'il veut faire demain. On a entendu des grandes personnes, des grandes personnalités qui ont fait de grandes choses, mais aujourd'hui, qui ne sont plus. Et on a parfois tendance à regretter leur mort, alors que ils ont accompli leur mission et ils sont partis. Et si nous, aujourd'hui, Dieu nous renouvelle en souffle de vie, c'est qu'on a quelque chose de plus encore à accomplir avec lui. À chaque ouverture des yeux le matin, dites-vous, le plan n'est pas fini. L'image n'est pas encore parfaite. Et qu'il y a encore quelque chose que Dieu veut travailler avec moi aujourd'hui. Et ça peut passer par différentes formes. Comme je disais, les pièces, elles sont différentes. Et parfois, on ne voit pas le pourquoi, du comment. Mais quand tout passe, on comprend que Dieu avait raison. Et parfois, ça passe par des larmes. Mais à la fin, on comprend que Dieu avait raison. Et même si vous pensez que vous n'avez pas de valeur, bon, j'espère que vous ne pensez pas ça quand même, parce que vous en avez beaucoup aux yeux de Dieu, mais aussi longtemps que vous avez la vie, tout est encore possible. Dieu est encore capable de reconstruire, de faire fleurir même tout ce que l'ennemi avait arraché et détruit. Il est celui qui rachète le temps. Parce que parfois, c'est ce qui nous fait peur. On se dit, j'ai déjà perdu beaucoup de temps dans telle chose, est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore capable de recommencer et d'avancer? Oui. Il suffit de croire et de faire confiance. Si la vie de Joseph s'était arrêtée en prison en Égypte, on aurait pu traiter Dieu de menteur, celui qui lui a donné des rêves et qui finalement ne se sont pas accomplis. Mais il devait passer par là pour mieux savoir que dans l'exercice de la fonction du premier ministre qu'il aura, il ne sera pas injuste parce qu'il a connu la prison. Il n'enverra pas quelqu'un de façon injuste à être condamné. Mais pour cela, il fallait qu'il passe lui-même par cette épreuve. Si David devait avoir sa dernière pièce posée pendant qu'il était encore berger, gardant les moutons de son père, ça allait être peut-être très compliqué pour lui de vivre tout ce qui est venu après. Aussi longtemps qu'on a la vie, tout est encore possible. Et vraiment, aujourd'hui, si je peux insister sur quelque chose, c'est sur notre capacité à faire confiance au plan de Dieu. Et parfois, nous-mêmes, on n'a pas de plan. Parfois, on se réveille, on n'a pas de plan. On a juste un défi à relever, on n'a pas de schéma pour y arriver. Et même dans ces genres de circonstances, dire à Dieu en premier, je te fais confiance. Et j'aimerais bien finir par ce verset qu'on a déjà lu, en disant que nous sommes tous des pièces au fait dans le corps du Christ. Nous sommes tous des pièces. Il y a une dimension où Dieu pose des pièces dans notre vie pour nous construire de façon personnelle. Et il y a cette dimension où lorsque notre image personnelle est en train de se construire, il y a une image collective qui est aussi en cours de construction. Et alors Dieu ne nous appelle pas tous à faire la même chose aux uns comme il donne à être apôtre, aux autres à être prophète, et la liste n'est pas du tout exhaustive dans ces versets. Mais ce qui est sûr, vous avez un rôle à jouer dans le corps du Christ. On ne va pas tous être pasteur, bien que ce soit... Enfin, qu'il ait de beaux jours, hein, je pense, à être pasteur. Mais ce qui est sûr, où que vous soyez, vous êtes appelé à jouer un rôle dans le corps du Christ. Et pour mieux jouer ce rôle dans la collectivité, il faut que dans l'individualité, vous soyez vous-même suffisamment formé. Alors j'aimerais vraiment nous encourager aujourd'hui à faire confiance à Dieu et vraiment à nous reposer sur lui, à trouver notre appui en lui. Si Dieu peut jouer au puzzle dans notre vie, laissons-nous être façonnés entre ses mains. Si on peut être l'argile entre les mains du potier, acceptons aussi de laisser Dieu être l'auteur, le metteur en scène, le compositeur du film ou du spectacle de notre vie. Et pour cela, on doit lâcher prise. Accepter de perdre pour gagner. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous inviter à la prière. Si vous pouvez vous lever ou rester assis, c'est comme vous voulez. Je n'ai pas beaucoup d'intention de prière à donner, mais je pense que vous avez peut-être retenu quelque chose pour laquelle vous aimeriez prier et vraiment profiter de ce moment. Et n'est pas simplement écouter cet enseignement pour ensuite passer à autre chose, mais vraiment entendre et dire à Dieu, comme c'est le père de cet enfant, viens au secours de mon incrédulité. Je sais qu'il y a des prophéties sur ma vie, je sais qu'il y a des grandes promesses. Parfois, je vois mon corps vieillir. Parfois, je vois l'âge passer. Parfois, je vois le temps passer et ça me décourage et cela me frustre. Alors, ce matin, je veux simplement renouveler ma confiance en toi. J'aimerais qu'on puisse tout simplement prendre ce moment pour dire à Dieu, je vais te faire à nouveau confiance. Non pas en apparence, mais vraiment de cœur. Je veux à nouveau regarder à toi. Quelquefois, nous avons nous-mêmes ralenti ce plan. Quelquefois, nous avons nous-mêmes ralenti ce programme. Quelquefois, nous avons nous-mêmes taillé les pièces qu'il ne fallait pas tailler. Et on a mis certaines pièces là où il ne fallait pas. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Mais ce matin, où que nous soyons, nous sommes d'accord pour te dire, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous revenons à toi comme des enfants qui reviennent dans la maison du Père. Nous revenons à toi comme des fils et des filles qui savent que sans toi, nous ne sommes rien. Nous revenons à toi parce que tu es l'auteur de notre vie. Père éternel, voici ton peuple pour lequel et avec qui je prie. Nous prions tous ensemble comme un seul homme pour te dire que nous te faisons confiance. Nous ne voulons pas vivre une vie de foi où nous admirons les progrès des autres pendant que nous comptons les échecs de notre côté. Nous avons marre d'être frustrés par des projets qui sont dans nos cœurs mais que nous ne voyons pas à l'accomplissement, de voir le temps passer sans voir forcément les prophéties s'accomplir. Oh, à 80 ans, Moïse a commencé sa carrière avec toi. À 80 ans, il a commencé ce mandat pour lequel il a été envoyé sur terre. Alors nous voulons te faire confiance. Aussi longtemps que tu nous donnes vie, nous voulons dire que nous te faisons confiance. Regardez non pas à nos propres capacités et à nos infirmités, mais regardez à toi, le Dieu qui peut faire tout et qui sait faire toutes choses bonnes en son temps. Père, je prie pour chaque cœur. Là où le découragement pouvait gagner du terrain, là où la peur et la crainte commençaient à gagner du terrain, là où le diable commençait à insuffler des pensées négatives qui nous condamnaient dans notre chair, dans la maladie, dans le désespoir, Seigneur, je prie pour briser toutes ces pensées au nom de Jésus. Et je proclame la vie dans le nom de Jésus. Je proclame la vie en abondance dans le nom de Jésus. Père, je me lève en prière ici et maintenant. Je déclare que dans le nom de Jésus, aucune personne ne passera à côté de l'image que tu attends qu'elle puisse ressortir. Je prie dans le nom de Jésus que par maintenant, pendant que nous prions, ton esprit est en train d'enlever les écailles de nos yeux afin que nous puissions voir les chemins tout tracés qui sont déjà dans notre cœur. Je prie dans le nom de Jésus que là où nos propres décisions nous ont conduits à des endroits où nous ne devrions pas être, que tu puisses nous relocaliser avec ton GPS céleste. Je prie dans le nom de Jésus pour le cœur qui a été meurtri, reçoive guérison, force et courage maintenant. Oh oui, Père, nous te faisons confiance. Je n'ai pas l'image finale de ce que tu attends de moi. Je n'ai pas les détails de ce que tu attends pour ton Église. Mais ce que je sais, c'est que tu veux que nous puissions ressembler à Christ. Et dans ce sens, je prie afin que chaque jour, tu renouvelles notre force. Car nous trouvons notre appui en toi. Non pas à nous, mais à ton nom, on donne gloire, Père. Non pas à nous, mais à ton nom, on donne gloire. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut simplement prier, dire à Dieu, oui, je veux te faire confiance. Pour mes enfants, pour ma famille, je veux te faire confiance. Je ne veux pas laisser un héritage des problèmes, je ne veux pas laisser un héritage d'angoisse, je ne veux pas laisser un héritage de blessures, mais je veux te faire confiance pour eux aussi. Oh oui, car tes promesses ne sont pas que pour David, mais pour tous ses descendants. Oh oui, tu es un Dieu transgénérationnel. Tu peux puiser dans aujourd'hui ce que tu veux donner à nos enfants demain. Oh oui, pour cela, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous voyons dans la parole qu'il y a de ceux-là qui sont morts dans Hébreux 11 sans avoir vécu ces choses, mais parce que ces choses sont devenues un héritage pour des personnes après eux. Oh oui, viens travailler au-dedans de nous. Nous acceptons de perdre. Nous acceptons de perdre afin qu'il y ait moins de nous et plus de toi. Moins de nous dans notre caractère, moins de nous dans nos projets, moins de nous mais plus de toi. Nous voulons mourir à nous-mêmes. Faire taire notre propre volonté pour que la tienne puisse éclater et que ta gloire puisse se manifester pleinement. Car c'est ce que tu veux faire, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance.